Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Mon invité, gueule d'ange, mais tempérament de feu, aura 22 ans jeudi. 22 ans, c'est l'aube d'une vie, me direz-vous. Pas pour lui qui a déjà vécu tant d'expériences exceptionnelles, comme par exemple chanter en live devant 200 millions de téléspectateurs. C'était à l'Eurovision. Je reçois donc un phénomène, tant sur le plan artistique que sociétal. Bill Alassani, 1 million d'abonnés sur TikTok, 600 000 sur Instagram, icône LGBT qui veut vivre en grand ses rêves, qui sera le 17 septembre sur le plateau Danse avec les stars sur TF1 et qui sort ces jours-ci Baby, un premier single extrait du prochain album. Fait pour dissiper l'amorosité ambiante. Je suis ravie de vous accueillir, Bill Alassani.
Bonjour.
C'est pas bonjour Paris là, c'est bonjour la France.
C'est la France entière, exactement.
Bon alors, avant de démarrer cette interview, Bill, je dois vous faire une confidence.
Oui.
Un soir au début de l'été, j'allume sans conviction ma télé et je découvre sur TF1 les images du château de Chambord transformé en scène estivale pour une émission de variété. Arrive alors un jeune homme sur cette scène immense, un très jeune garçon qui se met à chanter avec une voix, avec une ferveur, une émotion inouïe, la chanson de Brel chez ces gens-là. Jamais, les yeux dans les yeux, Bilal, jamais dans ma vie, je n'avais entendu une reprise de Brel aussi bouleversante, aussi incarnée, aussi puissante. Ce garçon, bien sûr, c'était vous, Bilal Hassani. Alors, sous les paillettes et les perruques, il y a donc un talent immense, il y a un immense artiste. Mais est-ce que les paillettes ne risquent pas, je dis bien parfois, de faire de l'ombre à votre talent? Je vous pose la question parce que, en fait, je vous ai vraiment découvert ce soir-là.
Ah, c'est incroyable. Bah, déjà, merci beaucoup. C'est vrai que c'était un énorme challenge de reprendre ce morceau, qui est un titre que ma mère affectionne beaucoup, un artiste qu'elle adore. Et c'est vrai qu'on a opté pour un peu plus de sobriété, vu ce dont parle la chanson et le répertoire. Alors, les paillettes ont souvent été mon moteur, en fait, pour aller chercher mon talent, pour aller le présenter, parce que je suis un garçon, en réalité, qui est assez timide, et ça m'aide de me mettre en scène et d'avoir, du coup, créé ce personnage. Voilà, ça m'aide un petit peu à me mettre en avant. Est-ce que je me sens emprisonné par ces paillettes? Je ne pense pas, mais...
Il n'y en avait pas de paillettes ce soir-là.
Mais ce soir-là, il n'y en avait pas, et vous ça aviez, a quand même fonctionné, oui.
Voilà, vous aviez juste... Alors, on pouvait imaginer d'ailleurs que c'était votre chevelure, parce que c'est une perruque brune, lycée très très court,
très
c'était
courte.
Très très sobre, voilà. Et je le redis, alors bien sûr, je vous avais vu chanter à l'Eurovision, j'avais suivi votre parcours, mais soudain, je découvrais une autre facette, une profondeur de chant incroyable. Alors, en novembre dernier, Bill Alassani, vous disiez dans la presse, je sais que je peux surprendre le public encore très longtemps, parce que en fait, je n'ai rien montré encore pour l'instant. Vous avez dit ça. Vous avez donc en vous bien d'autres univers qu'on ne soupçonne même pas.
Exactement. Je pense qu'on a vraiment touché uniquement la surface du projet Bill Alassani. Et c'est cool que je sois encore suffisamment frais et encore plutôt jeune, je pense. Je vais pouvoir explorer beaucoup. Donc si j'ai commencé si tôt, c'est pour une raison. C'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai envie de montrer. Et oui, voilà, on est vraiment qu'au début, là.
Côté cinéma, par exemple?
Peut-être un petit peu, oui. J'ai commencé avec le théâtre, en réalité.
Ouais.
J'étais au conservatoire de Breuillet, ma petite ville du 91, quand j'étais petit. Et j'ai commencé avec Les Songes d'une nuit d'été de Shakespeare, où je jouais Puck. Et c'est vrai que je m'en suis un peu séparée quand ma passion pour le chant a pris une très, très forte place dans ma vie. Mais je pourrais revenir peut-être aux planches ou au cinéma, oui.
Alors bien sûr, on va beaucoup parler musique dans cette émission, mais je voudrais revenir au personnage ultra glamour que vous nous offrez en télévision. Bon, ce personnage ultra glamour, c'est une construction, telle une performance quotidienne. Tu fais une projection entre Beyoncé et par exemple Ariana Grande, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Alors que le visage nu de Bill Alassani, sans maquillage, c'est vraiment celui d'un adolescent très émouvant. D'ailleurs, je vous ai en face de moi, on se parle les yeux dans les yeux. On dirait que vous avez 16 ans. Vous ne l'aimez pas trop, votre visage sans maquillage ?
Je pense que j'avais beaucoup de mal avec mon visage avant. du coup l'avoir façonné. Quand j'ai créé le personnage Bilal Hassani, c'était parce que j'avais beaucoup beaucoup de complexes et que j'avais beaucoup de mal avec mon apparence physique. Mais depuis que je suis assez libre en fait de mes choix par rapport à mon apparence, j'ai appris à apprécier mon naturel un petit peu plus. Donc je pense que ça m'a aidé de me cacher un petit peu pour pouvoir apprécier plus la rareté de mon naturel, on va dire.
Mais ça veut dire qu'au départ, donc, le maquillage, c'était plus qu'un bouclier, c'était une connexion au rêve, puisque vous êtes réinventé.
Exactement. Je me suis inventé, même. Je pense que je n'existais pas avant cette création qui a commencé très tôt, quand j'avais, je pense, 8-9 ans, parce que mon rêve ultime était de devenir la plus grande pop star de la planète. Et quand je me regardais
dans la glace...
Attention,
ça risque d'arriver.
Ah, hein. Bah, j'espère bien. et je me regardais dans la glace et je me disais, bah, je n'ai pas l'apparence de la plus grande pop star de la planète. Il va falloir que je la crée. Et donc, ça a été tout un travail, mais qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et oui, j'aime bien le terme bouclier, en tout cas.
Mais alors, se démaquiller, c'est retourner à la réalité.
Oui.
Et ce moment-là, vous vivez comment ?
Avant, je le vivais très très mal. Il y avait ce truc où j'avais beaucoup de mal à me détacher de la pop star Bilal Hassani. Aujourd'hui, j'apprécie énormément le naturel, parce que je me suis rendu compte que remplir le puits, c'est très très bien, mais des fois il faut le laisser un petit peu tranquille et juste regarder de l'extérieur. Et donc c'est comme si je sortais de ma coquille pour rentrer dans une autre quand je me démaquille. Et voilà, il y a pas deux personnes, mais il y a quand même.
Mais c'est quand même presque schizophrénique, parce que vous parlez de la pop star Bilal Hassani. Donc voilà, vous la regardez évoluer, vivre, c'est votre créature.
C'est vrai, c'est vrai.
Bilal Hassani, pensez-vous que vous auriez été heureux si vous étiez né dans le corps d'une fille ?
Je ne pense pas. Je pense que si j'étais une femme, je pense que je l'aurais su, en tout cas. Si je m'étais rendu compte, je pense qu'à cet âge-là, et avec toute l'ouverture d'esprit qu'il y a autour de moi, et aussi le travail profond de remise en question que je fais sur moi-même, je m'en serais rendu compte si je me sentais femme. Donc je pense que... ouais, non.
Et puis disposer à sa guise, en fait, des deux apparences, fille ou garçon, c'est quand même assez excitant, non ?
Je pense que c'est surtout l'idée de me réapproprier le masculin et la virilité et l'emmener ailleurs, en fait, et recréer des codes masculins nouveaux. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est vrai que c'est difficile de le comprendre parce que c'est nouveau et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça, mais... Moi, je me sens viril même avec les cheveux longs et tout le maquillage que je porte. C'est une virilité singulière, c'est quelque chose de certes nouveau, mais de très fort.
Alors Bilal Hassani, vous avez une garde rapprochée, plus que fidèle, quoi, quasi fusionnelle, avec l'équipe avec laquelle vous travaillez, par exemple votre coiffeur, votre maquilleur, mais surtout votre maman, Amina, qui gère tout, qui voit tout et qui rêve en grand pour vous. Votre maman, elle préside le label indépendant que vous avez créé pour défendre votre carrière. Je précise d'ailleurs que votre mère, elle était, avant de devenir votre manager, elle était chef de projet dans l'informatique. En fait, vous avez embarquer votre mère dans votre rêve.
Exactement. Bah, depuis tout petit, ma mère suit un petit peu mon rêve. En fait, initialement, j'étais juste un enfant un peu hyperactif qui avait besoin d'activités extrascolaires. Donc, on m'avait inscrit au conservatoire pour que je me taise un peu plus à la maison. Et c'est parti.
Ça marchait.
Et ça marchait très, très bien. Je dormais la nuit. De fil en aiguille, le rêve s'est développé. Ma mère m'a vu un petit peu sortir de ma coquille, me libérer quand je chantais.
A-t-elle même compris peut-être avant vous ?
Non, elle n'a pas compris avant moi. Je pense surtout, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'elle m'a laissé l'espace et elle m'a laissé le temps de savoir si vraiment c'était quelque chose que je voulais faire, à quel point c'était viscéral pour moi. Elle a plutôt observé dans un premier temps jusqu'à mes, je pense, 15-16 ans. Et au moment où il a fallu vraiment qu'elle m'aide, elle était là et elle attendait et elle a fait un travail
incroyable. Vous avez pris l'envol main dans la main.
Exactement, je lui ai dit, maman, en plus on a commencé en partant à Los Angeles pour un concours de chant. C'est la première fois que je lui ai dit officiellement que je voulais qu'elle soit ma manager. Et elle m'a dit ok, et je me rappelle de ce voyage comme
vous
si c'était
hier. Vous aviez quel âge ?
J'avais 16 ans.
Waouh ! Ouais. Et comment s'est déroulé le concours?
On a gagné la médaille d'or.
C'est trop mignon parce que vous dites, on vient de parler de, vraiment de cette équipe, de ce couple fusionnel que vous formiez avec votre maman, et vous dites « on a gagné ».
Je dis toujours « on », et je le dis aussi pour mon public et moi. C'est-à-dire que quand on gagne des prix, bah, c'est notre prix. Quand on est dans une bonne position dans les classements pour les nouveaux titres qui sortent, c'est toujours « on », parce que je fais peut-être la musique, ou je vais peut-être créer, ou être à la source du projet, mais il y a tellement de facteurs et d'autres personnes qui vont injecter de leur amour et qui vont faire en sorte que ça devienne quelque chose d'important, que je ne peux pas avoir la prétention de dire je.
Bon, j'ai 1000 questions à vous poser.
Oui,
Bilal Hassani, donc on va faire une pause, promis juré, très courte, et on se retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
Ce garçon, maquillé ou pas, a tous les talents. Je reçois Bilal Hassani, dont la voix chaude va vous faire chavirer avec un nouveau single, Baby, et qui nous réserve des surprises, c'est certain, sur le plateau de Danse avec les Stars, dès le 17 septembre, sur TF1. Alors Bilal Hassani, il y a dans votre univers et votre culture, deux pays qui comptent énormément. Le Maroc, dont votre famille est originaire, et Singapour. Singapour, où votre père s'est installé quand vous aviez 4 ans. Vous parlez donc quatre langues, c'est-à-dire le français, l'anglais, l'arabe et le malais, la langue qu'on parle en Malaisie?
Alors, je dirais pas du tout que je suis assez bon pour dire que je parle 4 langues, mais je comprends le malais, et je comprends l'arabe et je peux le pratiquer un petit peu, oui.
Vous êtes modeste, quoi. Il paraît en tout cas que vous parlez un petit peu le coréen, parce que cette culture vous fascine.
Oui.
La pop coréenne, la K-pop.
Exactement, mais je suis tombé amoureux de cette culture-là, mais du coup, surtout quand je partais à Singapour chez mon papa et que je voyais cette chose se développer et devenir encore plus énorme que la pop occidentale. Et c'est vrai que je suis devenue très très fan très tôt, je pense à mes 9 ans de musique coréenne et ensuite de toute la culture de ce pays, oui.
Alors en fait, depuis la petite enfance, donc à cause du divorce, de la séparation de vos parents, vous avez, on peut dire, 3 maisons à Paris, au Maroc et à Singapour. Et Singapour, vous y allez souvent?
Oui, j'y vais très souvent, mais je suis tombé amoureux de cet endroit. En réalité, mon père est rentré de Singapour, il est maintenant en France, mais je vais continuer à y aller parce que j'ai plein d'amis là-bas et que j'ai vraiment beaucoup appris dans ce pays.
Vous y êtes allé pendant combien d'années?
Ça fait 16 ans que j'y vais régulièrement, tous les ans. Donc c'est très 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 important pour moi. C'est un vrai pilier, même culturellement parlant. Il y a quelque chose de fort qui se passe pour moi quand je suis là-bas.
Vous dites qu'il y a quelque chose de fort qui se passe pour moi à Singapour. Et effectivement, je crois comprendre que vous vous sentez totalement libre là-bas. Comment expliquez-vous cette liberté dans un pays qui est situé entre l'Indonésie et la Malaisie et qui sont en fait des pays où la religion musulmane est majoritaire? On s'y prend comment lorsqu'on est un jeune musulman de Singapour pour être libre et s'affranchir des codes, comme le font par exemple les jeunes au Japon?
Mais en réalité, c'est vrai que la jeunesse, la génération Z de Singapour, oui, se libère énormément et est en train de complètement s'émanciper de tout code, peut-être un petit peu fort religieux. Après, moi, ce que j'ai toujours trouvé assez beau dans ce qui se passe à Singapour, c'est que beaucoup, beaucoup de cultures s'entrechoquent et s'entremêlent, plutôt, je vais dire, et des religions très différentes cohabitent.
Comme l'hindouisme, par exemple.
Voilà, l'hindouisme, même le christianisme, le judaïsme. Et quand je suis là-bas, on voit vraiment tout le monde être ensemble. Il y a un aspect vivre ensemble qui est vraiment, vraiment touchant. Ouais. Et je ne me suis jamais sentie observée, même peut-être... Vraiment, j'ai jamais rien ressenti d'étrange, en tout cas dans les regards des autres quand j'étais là-bas.
Donc, grandir là-bas à Singapour, vu, on va dire, votre singularité, Bilal Hassani, ça vous aurait semblé plus facile, peut-être, qu'ici?
Je ne sais pas si je dirais plus facile qu'ici non plus, parce qu'en réalité, c'est quand même une destination où j'allais pendant des courtes périodes. Je ne sais pas comment mon expérience de vie aurait été si j'avais fait toute ma scolarité là-bas. C'est vrai que je connais plus mon expérience ici en France. Après, ce qui est cool et important à retenir aussi quand même, c'est que je me suis aussi vraiment senti libre en France. Et que pendant mon adolescence, même si ça a été dur à certains moments, je me suis jamais senti menacée dans mon identité. Mmh. Je pense qu'il existe des pays où ça aurait été peut-être bien beaucoup sûr. Plus dur pour moi.
Bien sûr. Alors, on a évoqué votre maman. J'aimerais qu'on parle juste un petit instant de votre père.
Oui.
Ça n'a pas été aussi simple avec votre papa, c'est ça ? Il a mis du temps à vous accepter tel que vous êtes ?
Peut-être un petit peu plus. Je pense que mon père avait peut-être une vision un petit peu plus étroite de l'humanité et peut-être un petit peu moins de... Comment dire ça correctement ? Un peu moins foi en la bonté humaine. Et il était plus inquiet pour
vous,
moi
en fait.
Qu'autre chose. Donc c'était surtout dans la cruauté de ce monde, comment veux-tu exister comme ça et d'où te vient cette envie ? En fait, il avait l'impression que c'était une envie de te mettre en danger à ce point-là. Et c'est vrai que ça a été plutôt long, je pense, en tout cas plus long pour lui que pour ma maman, de comprendre que c'était quelque chose... que mon identité, je ne pouvais pas la maîtriser ou
faire de concessions avec ce que vous étiez.
Parce que ce n'était pas un choix. Donc oui, ça a été un petit peu plus long. Je pense qu'il a dû beaucoup apprendre en peut-être lisant des choses sur moi, etc. Parce qu'on a une relation peut-être un petit peu plus pudique et on avait... On n'a pas souvent discuté de ces sujets-là, mais maintenant un petit peu plus, oui.
Alors votre maman, elle, a toujours été votre socle, envers et contre tous.
Oui.
Elle vous a immédiatement compris, toujours défendu. Par exemple, lorsqu'à 6 ans, vous avez été inscrit dans un conservatoire et une école de chant, c'était son idée ou bien c'était la vôtre ?
Alors, c'était... mon idée d'être au conservatoire, mais c'était la sienne de me faire faire quelque chose d'autre que juste les cours. Voilà. Elle voulait que j'apprenne d'autres disciplines. On avait essayé la natation, j'ai pas réussi. On avait essayé le tennis. Finalement, c'est mon frère qui est resté sur le tennis. Et donc après.
Et vous, à vous l'artistique.
À moi l'artistique. Voilà. Donc j'ai commencé avec un peu de danse classique et beaucoup, beaucoup de théâtre.
Voilà. Et vous avez appris le solfège, le piano. Un peu de violon, paraît-il.
Oui.
La guitare, le chant, la danse, bien sûr. Mais. Il est surprenant de vous retrouver ensuite, Bilal Hassani, en pension et dans une institution catholique. Pourquoi en pension ? Qu'est-ce que vous êtes allé faire en pension ?
Ben j'avais envie. C'est très bizarre. Mais du coup, mon grand frère est allé en pensionnat et j'étais vraiment pot de colle avec lui. Et quand j'avais vu qu'il était parti dans ce pensionnat, j'avais demandé, supplié à ma maman de m'y inscrire aussi. C'est marrant. Et je me suis retrouvée là-bas et c'est vrai que j'étais plutôt épanouie, surtout au début, parce que je trouvais que c'était une expérience de vie quand même incroyable de pouvoir faire ma petite valise le lundi et rentrer que le week-end. Enfin, je sais pas, j'aimais bien, je trouvais ça charmant.
Mais alors vous dites, j'étais épanouie, surtout au début.
Oui.
Ça veut dire qu'ensuite les choses se sont un peu compliquées, on va dire.
Un petit peu.
Vous aviez déjà pris conscience de votre différence ?
De ma sexualité,
par exemple.
Oui, je pense que quand je suis arrivée à, en tout cas, ce second pensionnat, celui dont on a beaucoup entendu parler, j'étais déjà bien conscient de mon identité, oui.
Vous avez souvent évoqué cette peur au ventre qui vous tenaillait à l'adolescence quand il vous fallait décider, en fait, on va dire, c'était pas un choix à faire, vous venez de nous le dire, mais en tout cas officialiser un genre. Garçon ou fille ? Parce que la société, voyons, voit un garçon. Pour vous, c'était plus complexe que ça. Mais pour oser vous affirmer vraiment vis-à-vis de l'extérieur, ça a pris du temps ou pas ?
En réalité, moins que la moyenne, je pense. Parce que j'ai commencé à assumer mon identité et à me montrer fièrement et à exister fièrement, je pense, aux alentours de 13 ans. Donc, c'est très jeune. Mais ensuite, il y a... En fait, je pense que la notion de coming out, on a l'impression que c'est quelque chose qui se passe une fois. Et quand c'est fait, et puis on passe à autre chose. Mais en réalité, on le fait plusieurs fois. On le fait constamment, encore et encore et encore. Et donc, j'en ai vécu plusieurs des coming out. J'en ai vécu dans des contextes très différents. J'ai reçu des réponses et des réactions différentes aussi. Mais je pense que c'est en 2017, quand j'avais 17-18 ans, que mon vrai coming out a eu lieu. Parce qu'à ce moment-là, j'étais exposé sur les réseaux sociaux, que je commençais à avoir un nom un petit peu. Et que je l'ai dit officiellement. À ce moment-là, on ne peut plus vraiment retourner en en arrière.
Alors, queer, ce mot anglais qui signifie étrange, bizarre, puis qui ensuite a désigné les homosexuels, eh bien, queer, David Bowie, il a été de manière absolument flamboyante avant tout le monde dans les 60s. Est-ce que 60 ans plus tard, Bilal Hassani, vous pensez que c'est plus difficile d'être queer ?
Je pense que c'est toujours dur d'être queer. Je pense que ça l'est beaucoup moins que dans les années 60. On a fait, il y a eu un travail phénoménal quand même par la génération précédente de la communauté LGBTQIA+. On a vu beaucoup de progrès.
Parce que tout de même dans les années 60, toutes ces stars de la pop anglo-saxonne, donc on les voyait tout autour de la planète, c'était très assumé, très officiel. Et on a l'impression que les choses se sont plutôt raidies. Je ne sais pas.
En fait, ce qui est étonnant, c'est que malgré le fait qu'on ait plus de droits en tant que personne queer, l'identité, la question d'identité est devenue un sujet tellement, je pense, politique que la frivolité qu'il y avait dans ces expériences et dans ces identités-là dans le passé, surtout dans la culture et notamment, là on parle de musique, bah, aujourd'hui vu que c'est tellement politique, on a peur un petit peu plus qu'avant. Mmh. Et donc aujourd'hui, bah, c'est tu deviens marqué
politique par ton
identité.
Religieux.
Voilà. De par ton identité plutôt que pour ton œuvre ou ton art. C'est-à-dire que je serais arrivé avec une perruque peut-être à l'époque du glam rock et j'aurais été avec des talons compensés autour de Mick Jagger et Freddie Mercury, etc.
Voilà.
Ce serait peut-être passé un petit peu plus tranquillement. On aurait vu un personnage flamboyant, stylé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va directement s'attaquer à une question sociale et qu'est-ce que tu veux dire et pourquoi,
et ben voilà. Voilà la raison pour laquelle je vous ai posé cette question et vous répondez magistralement. On s'interrompt vraiment un bref instant. On retrouve tout de suite Bilal Hassani.
Baby, dis-moi que tu m'aimes et tu le pensais, que la nuit tu ne peux pas m'oublier. Promets-le-moi, ne dis pas non. Oh, non, oh. Ouais, baby, ne perds pas de temps, viens me retrouver. Je peux voir dans tes yeux que t'aimes le danger. Promets-le-moi, ne dis pas non. Oh, non, oh. I know that you want to let me go, but if I go far away, que tu m'aimes et tu le pensais, que la nuit tu ne peux pas m'oublier. Promène-moi, ne dis pas non. Oh, non, oh. Ouais, baby, ne perds pas de temps, viens me retrouver. Je peux voir dans tes yeux que t'aimes le danger. Promène-moi, ne dis pas non. Oh, non, oh. Alors regarde-moi et écoute-toi. Si tu veux de moi, je veux des promesses, ouais, des promesses. Mais si tu ne me dis pas, passion, allons bonne maintenant. Oh, oh, oh. Baby, dis-moi que tu m'aimes et tu le pensais, que la nuit tu ne peux pas m'oublier. Promène-moi, ne dis pas non. Oh, non, oh. Ouais, baby, ne perds pas de temps, viens me retrouver. Je peux voir dans tes yeux que t'aimes le danger. Promène-moi, ne dis pas non. Mais tu le pensais. Hey, hey. Oh, baby. Baby. Oh, oh, baby. Baby, dis-moi que tu m'aimes et tu le pensais, que la nuit tu ne peux pas m'oublier. Promène-moi, ne dis pas non. Oh, non, oh. Ouais, baby, ne perds pas le temps, viens me retrouver. Je peux voir dans tes yeux que t'aimes le danger. Promène-moi, ne dis pas non. Oh, non, oh. Alors regarde.
C'était Baby, le nouveau titre de mon invité Bilal Hassani.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Il rêve en grand, Bilal Hassani, et ses rêves le portent loin, tout comme sa communauté. 1 million d'abonnés qui le suivent sur TikTok et qui l'encourageront, c'est certain, dès le 17 septembre sur TF1 pour Danse avec les Stars. Alors cher Bilal Hassani, en préparant cette émission, je suis allée visionner sur YouTube votre prestation dans The Voice Kids, prestation qui en 2016 avait fait se retourner tous les fauteuils rouges des jurés. Alors la voix magistrale, elle était déjà là, mais vraiment vous aviez un visage d'enfant, chaussé de lunettes, les cheveux très très courts et vous étiez vêtu d'une chemise à carreaux. C'était il y a à peine 5 ans. C'était dans une autre vie, hein, une éternité. À partir de quand, en fait, la mue physique s'est-elle faite? Quand, par exemple, vous avez créé votre chaîne YouTube, là, vraiment, vous êtes laissé aller à imposer le personnage que vous avez dessiné, que vous avez façonné? Mais, parce que là, dans The Voice Kids, on découvrait un jeune garçon très timide et qui vraiment avait un look terriblement classique.
Oui. Mais déjà, je ne me suis pas habillée sur The Voice Kids, donc je n'étais pas décisionnaire.
C'était pas vous qui aviez choisi
non,
les vêtements?
Non, il y a des stylistes, voilà. Évidemment. Mais ça m'allait en réalité, parce que c'est vrai que j'étais très timide et très frileux à l'idée de passer à la télé à ce moment-là. C'était encore très tôt et je ne me sentais pas prêt. C'est un ami qui m'avait inscrit en envoyant une vidéo qu'il avait filmée en loose day de moi en train de chanter. Donc...
Ce n'était pas vous qui vous étiez en fait précipité pour faire le casting?
Ah
pas
non,
du
non,
tout.
Pas du tout. On m'a foutu là-bas en réalité et c'était un plaisir. Hein. L'aventure s'est passée merveilleusement bien. C'était comme une colonie de vacances. En plus, c'est très bienveillant, c'est pour les enfants, donc c'était très cool. Mais initialement, j'avais pas intention d'y aller. La chaîne YouTube s'est créée pas longtemps après, parce que des amis m'ont dit « bon, t'es en train de passer à la télévision, il faudrait que tu puisses exister sur les réseaux pour que les gens puissent te suivre ». Moi, j'avais un petit bigot, j'étais pas du tout fanat de téléphone en réalité, j'étais un ado qui lisait beaucoup et qui allait très peu sur Internet, mais copains m'ont dit « oui, il faut absolument que tu fasses ça, tu vas voir, ça va cartonner, en plus t'as une bonne personnalité de ça ». Et je me suis pris au jeu. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que même si le personnage était ancré dans ma tête et que j'avais ces idées avec cette chevelure, etc., je ne me sentais pas capable de le montrer au monde.
Oui, de l'assumer.
De l'assumer avant de découvrir mon public, en fait. Et les gens se sont vraiment agrippés à moi un petit peu, comme un soutien, comme si j'étais une...
Parce qu'il faut préciser, la première chanson Bilal Hassani que vous avez interprétée, donc postée sur YouTube, c'était Side to Side d'Ariana Grande featuring Nicki Minaj. Oui. Et alors les likes ont commencé à affluer par milliers.
Oui.
Par milliers, ensuite par centaines de milliers. En fait, c'est la première fois qu'une communauté anonyme validait ce que vous étiez et ce que vous faisiez.
Exactement.
Mais là, pour cette première chanson, le personnage tel qu'on le connaît en télé de Bilal Hassani était créé.
Oui. C'est là qu'il est né, en tout cas.
C'est-à-dire que vous étiez perruqué, vous étiez maquillé.
Alors, pas encore perruqué. Un peu maquillé, plus habillé. Mais c'est vrai que graduellement, la perruque est venue un petit peu après et les choses sont montées petit à petit. Mais en fait, plus on me donnait de l'amour, en fait, et plus je recevais des soutiens, et plus je voyais des gens me dire « Oh, grâce à toi, j'ai pu parler un petit peu avec mes copains de mon identité, cela, et oh, merci d'être toi. » Et surtout, n'hésite pas à être le plus toi possible. Nous, on t'aime. Plus je sentais ce soutien, plus je m'assumais de plus en plus, jusqu'à en arriver à la perruque, au maquillage encore plus, après à oser des tenues un petit peu plus extravagantes, etc. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on m'a donné avant que j'offre, donc avant l'Eurovision et Roi, etc. Et le fait d'aider les gens, c'est plutôt ma communauté qui m'a aidé à m'assumer, en fait.
Alors aujourd'hui, vous avez 600 000 abonnés sur Instagram, 1 million d'abonnés sur TikTok. Bon, captez quotidiennement l'attention d'un million de personnes sur les réseaux sociaux, c'est carrément du boulot. L'angoisse d'être caduque et remplacée, elle est très vive quand on vit comme ça, portée par les réseaux sociaux.
Non. Moi, je suis toujours pas obsédée par ces réseaux sociaux. Je l'ai été, je pense, courant Au départ, je pense que initialement il y avait quelque chose de très très fort on était rentré dans une sorte de microcosme d'influenceurs avec des copains à moi et ça me plaisait énormément. Maintenant, c'est pas ce qu'il y a de plus essentiel pour moi. J'aime chanter.
Bien sûr, parce que vous avez passé un cap. Mais alors, comme oui. Cette émission, c'est un portrait. Vraiment, Bilal Hassani, je voudrais que vous nous racontiez la naissance véritable de votre gloire sur YouTube. Alors que, il paraît que vous vous morfondiez dans Paris l'été 2018 avec votre meilleure amie, Léna Mahfouf, qui maintenant est connue vraiment tout autour de la planète sous le nom de Léna Situation. Oui. Vous rêviez d'un clip sur la reprise que vous aviez faite de Dja Dja. Daya Nakamura.
Oui.
Et votre ami vous a dit bah viens, on va le tourner tous les deux dans Montmartre. Allez, viens, on improvise. Donc vous avez enfilé un crop top pailleté, vous avez ajusté une perruque. Votre ami a embarqué sa petite caméra et vous voilà dans les rues de Montmartre à filmer comme ça, selon l'humeur du moment. C'était complètement surréaliste.
Exactement.
Et ça a fait des millions
oui.
de vues.
Oui, c'est genre encore l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne, je pense. Et c'est vrai que c'est surprenant parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de spontanéité à ce moment-là. On en reparlait, j'étais avec Léna la semaine dernière, on en reparlait. C'est vrai qu'à cette époque-là, on avait tellement personne qui nous attendait qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, quand on voulait. Et on était complètement irresponsables, on était fous. Et donc, elle avait pris cette caméra, on était partis dans les rues de Montmartre, on a filmé cette vidéo. Le soir même, je la poste sans me dire que ça allait faire quoi que ce soit. Et puis, deux mois après, on se retrouve signé dans un label. Il y a 5 millions de vues sur la vidéo. Aya Nakamura l'a partagée.
Oui, Aya Nakamura l'a partagée.
Oui, le jour même, d'ailleurs.
Le jour même.
Et elle l'a défendue ensuite dans les médias. Et ça, je me rappellerai toute ma vie parce que c'est le premier soutien, en tout cas de quelqu'un du métier que j'ai pu recevoir. Et donc je défendrai toujours corps et âme Aya parce qu'elle a été très 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 tendre avec moi, malgré en plus les critiques qui commençaient du coup à vraiment naître, parce qu'à ce moment-là il y avait beaucoup beaucoup d'attention portée sur moi. Elle m'avait défendu, mais c'est vrai que c'est la première fois que j'ai vécu une forte 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 exposition, et c'était assez impressionnant.
Mais alors, il faut nous raconter la suite, parce que malgré le carton sur YouTube donc de cette vidéo, trois mois plus tard, le 10 novembre 2018 au Energy Music Awards, alors là, vous allez vivre avec votre amie Léna,
oui.
ce qu'on pourrait appeler une humiliation, mais qui vous fait vraiment beaucoup rire aujourd'hui.
qui vous a même fait rire le soir d'eux.
Mais oui,
réalité,
non, mais c'est hallucinant, parce que les Energy Music Awards, vous avez invité avec plein de jeunes YouTubers,
oui.
et puis au dernier moment... Léna et vous, on vous interdit de fouler le tapis rouge et d'assister à la cérémonie.
Alors, je vais préciser. Donc, on n'était pas censé passer sur le tapis rouge du tout. Donc, on ne nous avait jamais dit qu'on allait y aller, en réalité.
Mais vous étiez invité, vous avez bien l'intention de le faire.
Oui, on avait envie de le faire avec Léna. Donc, on n'était pas assez connus, évidemment. Moi, je n'étais pas du tout un artiste ni signé, ni nommé, ni rien du tout. Et donc, on y va. Et donc, on s'était apprêté. Il faut se dire que pas mal d'influenceurs autour de nous étaient dans des bien mieux lotis que nous. On avait un petit hôtel très très loin dans la Croisette et voilà, avec très peu d'isolation, c'était une petite chambre, on s'était préparé tout seul,
oui.
et on est arrivé devant ce tapis rouge et on s'est dit qu'on n'allait pas du tout monter les marches.
Sauf qu'il y a eu un mouvement de foule.
Exactement.
Lorsque vous êtes arrivé,
oui.
C'est-à-dire que des centaines de fans se sont mis à hurler votre nom.
Oui, et donc à ce moment-là, on a les équipes de l'émission qui sont en train de se dire, qui ceux-là? Et donc Léna et moi, on se retrouve à faire le photocall et à monter les marches du Palais des Festivals. Et c'est vrai que c'était extrêmement rigolo, parce que quand on est rentré à l'intérieur, on s'est dit, qu'est-ce qui vient de se passer?
Mais Nikos Aliagas n'en revenait pas.
Ah,
il avait demandé, il comprenait pas pourquoi il y avait un tel mouvement de foule pour deux très jeunes gens dont il avait jamais entendu parler.
Qui n'étaient pas du tout programmés, on n'était pas censé être là, quoi. Et c'est marrant parce que on s'était dit, Léna m'avait dit l'année prochaine, tu gagneras un prix et je serai là pour te l'offrir.
Et
un an après, j'ai gagné la révélation francophone de l'année. Donc c'est vrai
sur
que
la scène des sur la scène d'Energy Music Awards, qu'on ne voulait pas vous laisser approcher un an plus tôt, c'est hallucinant.
Donc c'était un truc de malade. Et du coup, Léna n'a même pas pu rester. Elle est quand même venue à Cannes la veille de la cérémonie pour qu'on puisse passer une soirée ensemble, parce qu'on s'était juré d'être ensemble à ce moment-là.
Oui.
Mais elle devait partir le lendemain à Los Angeles parce qu'elle gagnait influenceuse de l'année.
C'est ça. Mais attendez, on appelle ça de la magie. C'est miraculeux. C'est extraordinaire.
Ouais. C'était incroyable. On se rappelait de son canapé chez sa mère. On rêvassait et on s'imaginait de vivre des grandes choses. Et là, un an après, tous nos rêves étaient en train de se réaliser. C'était affabulant. J'avais l'impression d'être dans un rêve.
Vous dites un an après, effectivement, cette année-là, en 2019, vous avez... En plus,
oui.
C'est pas anodin, représenter la France à l'Eurovision.
Yes.
Et vous dites que cette expérience, en fait, elle vous a donné en 2 mois la maîtrise qu'on acquiert en 5 ans de carrière. C'est-à-dire qu'il a fallu tout apprendre en accéléré.
Je pense, oui. Je pense que, en fait, quand on devient artiste dans ce milieu, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne peut pas apprendre en pratiquant et en faisant des cours, par exemple. Moi, j'ai été formé en chant, en danse, etc. Mais on apprend un tout autre métier quand ça commence vraiment. Parce qu'il y a une notion, il y a beaucoup de stress, ça va très vite, les choses ne s'arrêtent pas, il faut savoir être endurant. Il faut se dire qu'on chante aujourd'hui, mais on chante demain et on chantait hier, on chantera après-demain. Et c'est vrai que le cursus Eurovision, je pense que c'est la plus haute formation pour un chanteur parce qu'on est dans la répétition, on voyage beaucoup, donc on doit apprendre à ne pas prendre froid quand on voyage et à rester rigoureux, à apprendre à dormir correctement. et quand il y a des interviews, à bien parler, bien répondre, etc. Donc il y avait beaucoup, beaucoup d'apprentissage pendant ces premiers 6 mois de carrière et surtout les 2 mois concentrés de la période de l'Eurovision.
C'est formidablement joyeux de se balader avec vous, Bilal Hassani. Alors, on fait une pause courte, on se retrouve tout de suite.
Europe 1.
Cher Bilal, tout de suite, on va écouter le titre « Roi » avec lequel on vous a découvert et que vous avez interprété à l'Eurovision devant 200 millions de téléspectateurs. On monte le son.
I am me, and I know I will always be. Je suis free, oui j'invente ma vie. Ne me demandez pas qui je suis. Moi je suis le même depuis tout petit. Et malgré les regards, les avis, je pleure, je sors et je ris. You put me in a box, want me to be like you. Je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup. End of the day, you cannot change me, boo. Alors, laisse-moi m'envoler. I'm not rich, but I'm shining bright. I can't see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. I'm not rich, but I'm shining bright. I can't see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. And I know, oh, 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 even though, oh, 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 you try to take me down, you cannot break me, nah, nah. Toutes ces fois, fais comme si, fais comme ça, moi je n'ai qu'à la part. You will never remove my crown. Who are we? When we hurt, when we fight for free. Only God can judge you and me. Ce qu'on est, on ne l'a pas choisi. On choisit son travail, sa coiffure, ses amis. Sa routine, parfois l'amour aussi. Ça passe ou ça casse, mais ça...
C'était « Roi » par mon invité Bilal Hassani.
Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Du charisme, une audace folle, un vrai, un grand talent de chanteur. Je reçois Bilal Hassani qui, avec Baby, nous offre en avant-première un extrait de son prochain album. Et cet après-midi, eh bien, il se raconte. Alors, comme il se raconte, j'en profite, Bilal Hassani. En fait... Je voudrais vraiment comprendre, c'est jouissif ou bien parfois ça peut être angoissant d'avoir le sentiment face à la majorité silencieuse de nager à contre-courant et de devoir en permanence pulvériser les a priori.
c'est souvent terrifiant et c'est vrai qu'il y a une forme d'impression de solitude des fois dans ma quête, on va dire, vers mon rêve. Mais je ne perds jamais vraiment espoir parce que je me rends compte que ce que je fais ne sert pas à rien. Donc c'est vrai que des fois c'est dur, mais c'est important. Et si c'est dur, c'est que ça compte. Donc,
Il y a beaucoup de jeunes qui vous écrivent.
Oui.
Ouais.
Même pas que des jeunes en réalité. Il y a beaucoup, beaucoup d'humains qui me parlent et qui m'écrivent souvent pour déjà me remercier, mais aussi pour me partager leur expérience et pour me raconter un petit peu leur vie et leur combat. Et je trouve ça très, très fort. Et je suis content en tout cas de ne pas être qu'une poussière dans l'existence de certains et de pouvoir avoir une place et surtout. De faire ce que je fais, mais de pas le faire dans le vide, quoi.
Alors, justement, il y a peu, Bilal Hassani, vous deviez rencontrer Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'Éducation nationale, pour évoquer le mal-être des ados LGBT et envisager en fait la manière de combattre la plus efficace possible le harcèlement dont ils sont souvent victimes au collège et au lycée. Il a eu lieu, le rendez-vous ?
Il n'a pas eu lieu, le rendez-vous.
Oh !
Oui.
Et pourtant.
On en a peut-être besoin. Donc, je lui refais un.
Et ben voilà, un sur l'antenne, sur l'antenne d'Europe 1.
Exactement. Mais on avait peut-être un petit peu brièvement discuté sur Twitter, mais c'est vrai que ce serait sympa. Moi, aujourd'hui, je travaille activement avec la Voix de l'Enfant,
oui.
Dont je suis devenu ambassadeur, et on travaille beaucoup pour défendre les enfants de partout, de tous les milieux qui vivent des violences. Et on est toujours derrière. Moi, je suis toujours sur mon téléphone pour essayer de discuter avec les enfants, les adolescents qui vivent des violences, que ce soit du harcèlement en ligne, du harcèlement à l'école, dans leur famille, dans leur foyer. Et c'est vrai qu'il y a encore un long chemin et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire.
Mais ce dossier, avec votre maman qui est votre manager, j'imagine que vous ne le lâcherez pas.
Jamais.
Cher Bilal, est-ce que votre père aujourd'hui a compris que son fils était un véritable artiste? Je vous pose la question parce que je crois savoir que lorsque vous avez fait l'Eurovision, il ne vous a pas envoyé de signe. Vous attendiez un signe. Vous avez eu un message de votre frère aîné qui vous a dit que c'était formidable, mais vous attendiez un signe de votre père.
Peut-être que
vous a-t-il parlé ?
Oui, oui. En réalité, j'ai reçu du coup un retour de mon père et de mon frère en même temps sur un petit message et je m'attendais un petit peu à plus et j'aurais toujours voulu que mon père soit plus présent dans ma carrière d'artiste. Par exemple, qu'ils viennent à l'Olympia quand je le remplissais pour la première date de ma première tournée. En revanche, ce qui est très fort et qui m'a beaucoup ému, c'est que mon père a écouté les derniers titres qui ne sont pas encore sortis.
Du troisième album. Qui est en préparation, qui est presque mixé ou pas ?
Qui est presque mixé, oui, qui est en train de se finaliser, de se peaufiner. Et mon père a écouté les démos et pour la première fois, on a eu un vrai échange artistique parce que mon père m'a beaucoup, beaucoup influencé dans mon enfance. Il avait des goûts formidables, il me faisait écouter beaucoup de musique et pour la
Qu'est-ce
première fois...
Qu'est-ce qu'il vous faisait écouter votre père ?
Beaucoup de Michael Jackson,
ouais.
Beaucoup de Sade,
ouais.
Il me faisait écouter Prince, il me faisait écouter beaucoup de grandes voix comme Aretha Franklin, Mariah Carey, Whitney Houston, il m'a fait découvrir Amy Winehouse aussi,
ouais,
quand j'étais,
ouais,
petit. Donc il était vraiment derrière moi, il avait une vraie oreille et c'est vrai qu'elle me manquait, j'avais envie de l'entendre me faire des retours sur ce que je faisais moi.
Et là, sa validation sur les nouveaux morceaux qu'on découvrira bientôt,
voilà, ça m'a fait
important.
Beaucoup de bien. C'était très important, ça m'a énormément rassurée et je pense que ça a renforcé notre relation. Le fait qu'il, des fois il avait des critiques sur les morceaux, mais il avait quelque chose à dire en fait et c'est ça que je trouvais très très fort.
Il a choisi le titre du prochain album ou pas encore ?
Oui, le titre est choisi, je ne peux pas encore le révéler.
Donc on ne connaît que en fait le titre de l'extrait en avant-première,
exactement,
Baby,
pour
du nouvel
on
album
écoute Baby,
qui reste mystérieux. Mais alors, je voudrais savoir qui sur ce troisième album a façonné vos titres. Vous sollicitez des producteurs avec lesquels vous rêvez de travailler, ou bien ce sont eux désormais qui viennent spontanément à vous, Bilal Hassani ?
C'est un peu des deux en réalité. Il y a des personnes avec qui j'ai déjà travaillé. travaillé, que je revois, notamment Mathieu Mendes, avec qui j'ai fait tout l'album Contre-soirée, qui est un compositeur formidable. J'ai été sollicité par la team de Giulio Macidi, qui est aussi un compositeur incroyable que je voulais vraiment revoir, qui avait fait un seul titre sur mon dernier album. Cette fois-ci, on en a fait beaucoup plus avec Jaden et Giulio. Et je suis aussi partie en Suède un petit peu parce que c'est là-bas.
Ça bouge beaucoup en Suède.
Ça bouge beaucoup en Suède. Le temple de la pop, on l'appelle ce pays. Et j'ai pu travailler avec des auteurs aussi formidables, Laurel, à qui je fais des gros bisous, qui bosse principalement sur beaucoup de titres qui sont plus anglo-saxons, ouais. Et qui a aussi écrit beaucoup de K-pop. Et donc, parce que entre
la pop coréenne, donc le K-pop, oui. Et la pop suédoise, vous êtes très bien cernés là.
Exactement. Donc je me suis bien amusée sur cet album.
Qu'a-t-elle de différent de la pop anglo-saxonne, la pop coréenne?
Je pense qu'elle est un petit peu plus... how do we say camp? Elle est plus osée, je trouve. Je trouve que le goût du risque est plus présent
dans la pop coréenne,
en réalité. Oui, il y a quelque chose de...
Je pensais le contraire.
Ah non, en réalité.
Parce que j'ai vu... Alors, j'ai un fils qui m'envoie des morceaux de pop coréenne, qui vit, lui, à Los Angeles. Et j'avais le sentiment que... Ou alors, c'est peut-être parce que les clips sont mis en scène d'une manière tellement léchée que peut-être on ne se rend pas compte que derrière, musicalement, il y a de sacrées audaces.
Je pense que c'est très propre, c'est très bien fait.
Au niveau des clips,
au niveau
c'est
des
pour
clips,
ça,
au niveau de l'image et même au niveau du son, tout est parfait, tout est bien aligné, mais c'est pas sage. C'est vraiment osé. Je pense que c'est le plaisir que je ressens quand j'écoute de la pop coréenne, et c'est indéniablement bon en fait. Il y a quelque chose de différent, ouais, de
Donc
différent et d'osé.
Ce nouvel album va s'en inspirer.
Peut-être un petit peu. Oui,
ouais, un petit peu. Ça vous amuserait, Bilal Hassani, de faire carrière en Indonésie ou au Japon ?
J'adorerais. Moi, j'aimerais beaucoup voyager en Asie et partager mon œuvre là-bas. Oui, vraiment.
Il sort quand, l'album ?
À l'année prochaine, au courant.
Il faut attendre encore.
Il faut attendre encore un petit peu parce que j'en ai sorti deux. J'en ai sorti un en 2019 et un en 2020. Et c'est vrai que j'ai pas envie de brûler les étapes. Il faut pas aller trop vite. Et j'ai envie de prendre le temps qu'il faut pour que ça sonne parfaitement. Et aussi, je voudrais attendre que ce monde aille un petit peu mieux pour pouvoir raconter mon histoire. Pleinement.
En tout cas, on n'aura pas à attendre pour vous découvrir sur le plateau de Danse avec les Stars sur TF1, donc, puisque ce sera le 17 septembre que sera lancée l'émission. Est-ce que vous avez commencé l'entraînement ?
Oui, j'ai commencé les entraînements et ça se passe très très bien.
J'ai hâte de voir. Bon, Bilal Hassani, jeudi prochain, vous fêterez vos 22 ans. Vous avez l'intention de les fêter comment ?
Mais je ne vais pas pouvoir les fêter parce que je serai en train de fouler le parquet de Danse avec les Stars.
Tout de même.
Mais je ferai une petite célébration très simple. Je pense que je serai avec mon amoureux et mon chien et ma maman certainement.
Vous songez parfois à ce que vous serez dans 10 ans, donc quand vous serez très très vieux, à 32 ans. Non, mais plus sérieusement, vous avez des plans de carrière sur le long terme ? Vous vous projetez ou bien vous préférez vous laisser surprendre ?
J'aime bien me projeter, mais c'est vrai que jusqu'à présent, tout ce qui m'est arrivé était assez surprenant. Donc oui, j'imagine une longue carrière intense. J'ai envie de beaucoup voyager, j'ai envie de beaucoup chanter, de monter sur scène tout le temps et aussi explorer d'autres formes d'expression artistique. C'est vrai que j'aimerais bien peut-être jouer. Oui, le cinéma, ça m'attire un petit peu. Beaucoup même. J'aimerais écrire encore. Il y a un premier livre qui est sorti en 2019. Il y en aura certainement d'autres. Je vais beaucoup explorer, mais je veux surtout vivre pleinement et garder cette même conviction que tout est possible. Voilà.
Alors, tout est possible, comme par exemple le Stade de France, parce qu'il paraît que votre rêve le plus fou, ce serait de faire le Stade de France. Et puis l'apothéose, parce que si vous faites le Stade de France, forcément la maman qui est votre manager, elle sera dans les coulisses. Mais l'apothéose, ce serait d'avoir votre papa vous applaudissant, là, dans le champ de vision, pendant qu'il y a un feu d'artifice hallucinant au-dessus du stade. Vous le ferez, le Stade de France ?
Je le ferai, le Stade de France.
Vous le ferez, hein, vous le promettez.
Je vous le promets.
Bon, on sera là pour vous applaudir. Et puis on sera le 17 septembre devant notre télé pour vous voir danser sur le parquet de Danse avec les Stars sur TF1. Je vous dis à très vite et merci infiniment.
Merci beaucoup.